en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Le 7 et le 8 décembre 2007 s'est tenu le colloque international Jean Mabillon entre érudition et histoire culturelle à l'Académie des sciences morales et politiques. Ce colloque international organisé par l'Académie des inscriptions et belles-lettres et par le laboratoire d'études sur les monothéismes, par le CNRS et par l'école pratique des hautes études ainsi que par la société Mabillon avait pour but d'expliquer la personnalité de Mabillon, son statut dans l'historiographie française ainsi que son œuvre érudite. Les interventions ont porté dans un premier temps sur Mabillon et son image, puis sur le thème Mabillon et les enjeux de l'érudition. C'est dans ce cadre que Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de trois de ces interventions. Neil Stratford, correspondant étranger de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, devait faire une communication sur Jean Mabillon et Cluny. N'ayant pu se rendre à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, c'est Mark Smith, professeur à l'École des Chartes, qui a lu la communication préparée par M. Stratford. Retrouvons-le en grande salle des séances.
Un accident de santé a donc subitement interrompu la préparation même de la communication de M. Stratford alors qu'il était en train de la rédiger. Et le texte que je vais lire, donc ainsi que les illustrations, ont été mis en forme par lui avec l'aide de sa famille et de ses amis. Mais tout cela ne peut pas prétendre être tout à fait achevé. Comme vous le verrez, se termine un peu abruptement. M. Stratford espère donc que ce texte pourra rendre service malgré tout dans l'état où il se trouve actuellement et espère le reprendre donc pour l'achever à temps pour la publication. Évidemment, vous voudrez bien m'excuser de dire « je » avec le texte et considérer que c'est M. Stratford qui parle et je ne me risquerai pas non plus à vous proposer de répondre aux questions qui pourraient être inspirées par cette communication. En 1682, pendant leur voyage en Bourgogne, Mabillon et dont Michel Germain restèrent 4 jours pleins à Cluny. Ayant quitté Autun le 7 mai 1682, ils arrivèrent tard le lendemain et repartirent le 14 mai suivant. Cluny était en quelque sorte le but principal du voyage. Fere unus peregrinationis nostrae scopus. Les deux moines furent très émus de voir Cluny apparaître de loin à la fin d'un si long trajet, après être passé par le Mont-Cenis, par Autun, puis au pied du Mont-Saint-Vincent, petit prieuré de Cluny. Mabillon décrit brièvement le site de Cluny, entouré de collines. Il ajoute qu'au premier coup d'œil, la majesté du lieu n'est guère apparente, car les toits des bâtiments sont faits de tuiles, sub vili tegularum concavarum operimento. Ils furent reçus à l'abbaye avec tous les offices de l'humanité et de la bienveillance, comme le dit Mabillon, par le prieur Don Joachim Lettinois et les autres moines du lieu. Notons qu'en 1682, Cluny était sans abbé, cette situation datée de 1672, depuis que le roi avait refusé l'élection par les moines de Don Henri Bertrand de Beuvron, et elle ne devait être résolue que par la désignation du jeune et séduisant cardinal Emmanuel Théodose de la Tour d'Auvergne, approuvé à Cluny le 5 mars 1683. Ainsi, on a eu tort d'associer la visite de Mabillon avec la présence de ce jeune cardinal abbé, qui plus tard deviendrait en effet un si fervent admirateur du grand érudit. Dès cette date, Mabillon n'avait besoin d'aucune introduction. Sa réputation était déjà établie. De plus, en ce qui concerne les rapports entre la congrégation de Saint-Maur et Cluny, entre 1634 et 1644, les moines de l'étroite observance de Cluny, à l'initiative de l'abbé de Richelieu, étaient devenus membres de la congrégation de Saint-Maur, union à laquelle il avait été mis fin d'un commun accord. Dès 1614, dont Martin Marié et dont André Duchesne avaient publié leur grand ouvrage sur Cluny, la Bibliotheca Clunia Sensis, et cette édition de texte est citée par Mabillon à plusieurs reprises. En 1644-45, dont Anselme Michel, moine de la congrégation de Saint-Maur, avait visité la bibliothèque de Cluny et l'avait trouvée à l'abandon. Il avait copié beaucoup de chartes, pris beaucoup de notes d'après les manuscrits, créant véritablement le fond de Cluny, que ses successeurs à Saint-Germain-des-Prés allaient exploiter par la suite. C'est sans doute grâce à ce travail, d'ailleurs, que Mabillon et son compagnon n'eurent besoin que de peu de temps pour se repérer dans un si grand dépôt de manuscrits et de chartes. Mabillon, 40 ans donc après la visite de Don Le Michel, se dit plein d'admiration pour l'état de la bibliothèque et des archives, ces dernières conservées dans la tour nord de l'avant-nef de la grande église. De toute évidence, Mabillon avait déjà une grande connaissance de l'histoire de Cluny. Par exemple, juste avant son arrivée, il peut donner des indications sur l'histoire du château fort de Lourdon, mentionnant son saccage en 1575 par les calvinistes et sa destruction ensuite par ordre du cardinal de Richelieu. Son journal de la visite de Cluny, avec la description du monastère et de l'église, est d'un intérêt considérable pour les historiens. Cluny III, la grande église, ayant été démolie pendant les 30 ans qui suivirent la Révolution, comme vous le voyez ici, dans une aquarelle de la décennie 1810, et nous dépendons donc dans une large mesure des images et des descriptions pré-révolutionnaires pour notre connaissance de ce monument, dont l'importance historique, évidemment, ne saurait être exagérée. Mabillon nous a laissé un document graphique d'une valeur capitale, à savoir le plan et l'élévation, gravé en une seule planche et publié dans le cinquième volume des Annales de l'Ordre de Saint-Benoît en 1713. Mais avant de parler plus précisément de cette gravure, il faut dire quelques mots de la description de Cluny par Mabillon, qui ne fut publiée que dans ses ouvrages posthumes en 1724, même si elle avait été déjà en partie reprise et enrichie en 1713 dans le tome 5 précisément des Annales. Mabillon, futur historien de son ordre, malheureusement pour nous, n'était pas archéologue. Les visiteurs qui sont passés après lui à Cluny nous ont aussi laissé de brèves descriptions. Don Edmond Martin et Don Ursin Durand en 1710, Lebrun des Marettes, sieur de Mauléon en 1717 et Don Urbain Plancher en 1726. Vous voyez en outre, ici à l'écran, un remarquable plan général du monastère qui a été exécuté autour de 1700 par un auteur inconnu. Tous ces témoins étaient certes fils de leur temps, avec leur curiosité et leurs limites, mais tous sont pour nous, à un degré variable, plus intéressants que Mabillon lui-même quand ils décrivent l'église et le monastère. Ce qui importait à Mabillon, en réalité, c'était moins les édifices que l'organisation interne de Cluny, comme monastère et comme vénérable héritage historique des traditions de l'ordre. La disposition des tables dans l'immense réfectoire, d'après les ordines du chapitre général, la division du dortoir, avec au centre une partie pour les moines malades, qui y meurent sur les cendres, le nombre des stalles dans le chœur, 225, alors que la communauté ne compte désormais plus que 60 moines, les 6 enfants de chœur, recrutés dans des familles nobles et revêtus de l'habit monastique, le moment et la manière de la distribution de l'Eucharistie sous les deux espèces, ancien privilège de Cluny, ou encore les deux ambons, un de chaque côté du chœur, où l'on récitait autrefois les leçons comme dans les anciennes basiliques de Rome. Mabillon s'intéresse entre autres au tombeau. Il mentionne celui de Saint-Hugues derrière l'autel matutinal, que vous voyez ici, ainsi que celui de l'abbé Ponce de Melgueil, vous voyez ici dans la partie nord là, du petit transept, ce tombeau de Ponce de Melgueil, donc avec son gisant au pied lié parce qu'il était mort excommunié en 1126. Mabillon précise que Ponce avait été excommunié pour avoir volé la trésorerie de Cluny, ce qui est intéressant dans la mesure où c'était sans doute l'explication qui était reçue à cette date. Mais nous savons aujourd'hui que cette version est en réalité très douteuse. Il cite encore les tombeaux de Pierre le Vénérable et du pape Gélase II, mort à Cluny en 1119. Ce dernier monument, Mabillon le dit justement, était situé dans le mur du chœur, à la croisée du petit transept par où les moines entraient dans leur chœur. Pour le corpus de la sculpture de Cluny, j'ai catalogué tous les tombeaux de Cluny pour lesquels j'ai trouvé des indices documentaires et vous voyez ici donc un plan qui les situe tous par numéro. Vous observerez qu'il y avait un grand nombre de tombeaux dans l'église, mais aussi dans le cloître, dans la salle capitulaire, etc. Ce que vous voyez ici dans la partie droite. Il est donc décevant de voir combien peu Mabillon parle de ses autres tombeaux, si on le compare, par exemple, à Martène et Durand, en 1710. Plus remarquable encore, Don Urbain Plancher, lui, voyagea parfois accompagné d'un jeune dessinateur, Don Pierre Tivelle. Et voici le dessin, très scrupuleux, à défaut d'être d'une qualité artistique extraordinaire, d'une statue-colonne à Saint-Jean-de-Réaume, aujourd'hui Moutier-Saint-Jean. Dessin exécuté par Don Tivelle en 1725 et aujourd'hui conservé dans la collection de Bourgogne à la Bibliothèque nationale de France. Le portail du milieu du XIIIe siècle, auquel appartient cet élément, est aujourd'hui aux Cloisters à New York. Et vous voyez que grâce au journal de Don Tivelle, où vous aurez remarqué que c'est le roi barbu qui tient le phylactère, nous pouvons dire que les têtes des deux statues-colonnes ont été inversées à une date restante, à une date récente par les restaurateurs du Metropolitan. Hélas, nous n'avons de Cluny pas une seule représentation par Don Tivelle, mais seulement une ou deux gravures publiées par Martène et Durand après leur visite en 1710, gravures qui ne montrent pas les bâtiments abbatiaux, mais illustrent plutôt des particularités liturgiques. Par comparaison, on notera comme un indice des intérêts de Mabillon et du programme de travail fixé pour son grand œuvre, le fait que lui ne ressentit apparemment pas le besoin de disposer d'un dessinateur pendant ses voyages, en Flandre, en Bourgogne, en Lorraine, en Allemagne, etc. Il y a bien quelques très rares gravures de tombeaux dans les annales, par exemple une belle vue de celui d'Augier le Danois à Meaux, mais ces gravures paraissent avoir été refaites a posteriori, d'après des dessins aujourd'hui perdus qui avaient été fournis par des artistes locaux. Quant à la description de la grande église Cluny III, celle-ci aussi nous laisse un peu sur notre faim, même si le texte latin compte parmi les meilleures descriptions de Mabillon. Depuis le palais de l'abbé, nous approchons de l'église à travers un double portail, puis, passant au pied d'une croix monumentale dans la cour de l'abbaye, nous entrons dans l'avant-nef par une descente de 40 marches entre les deux tours occidentales, dont l'une abrite le siège de la justice et l'autre, comme nous l'avons vu, les archives. De l'avant-nef, Mabillon dit « on pourrait croire que c'est une véritable église » en se rapportant aux dimensions, et il la décrit brièvement en précisant justement les mesures. Il omet seulement de mentionner le grand portail sculpté par lequel il passe ensuite. Vous voyez dans le fond, hein, dans le dessin précédent, et dont on voit ici une reconstitution proposée dans les années 30 par l'historien de l'art américain Conant. Ce portail, lui, donne accès à l'église proprement dite, gigantesque et sonore. Ici encore, Mabillon donne les dimensions et décrit le plan en forme de croix à double traverse, comme on le sait. La partie orientale de l'église, que l'on voit donc ici au fond de la perspective, l'a particulièrement impressionné, de toute évidence. Il écrit en effet « Tota vero machinae moles in absidam Paulo de Preciorem incumbit, octo columnis, quas singulas homines duo brachiis complectantur, ad miraculum suffultam. » Il admire donc qu'une telle masse puisse être soutenue par ces huit colonnes d'une circonférence égale à l'étreinte de deux hommes. Il néglige cependant de mentionner le beau marbre dans lequel elles sont taillées, remploi d'un monument antique. Et il ne fait aucune allusion non plus à la grande fresque romane de l'abside, alors que ces deux particularités précisément ont frappé tous les autres anciens témoins. Si ce sont aujourd'hui les huit chapiteaux de l'hémicycle qui sont les plus célèbres morceaux de Cluny, c'est un effet du goût de notre temps, certes, mais aussi de leur survie après la démolition de l'abbatiale. Vous voyez ici donc le détail d'un des huit chapiteaux de l'hémicycle, en l'occurrence le quatrième ton du plein chant. Ces chapiteaux ne sont jamais mentionnés avant les années 1820 et jamais dessinés avant 1814. Ces premiers dessins, donc vous voyez ici un échantillon de ces dessins de 1814 dus à Fabien van Rysenburg, ces premiers dessins exécutés alors que l'abside était encore debout montrent combien il était difficile de les voir alors même qu'ils se trouvaient à l'air libre, hein, comme nous l'avons vu dans une vue précédente. Les colonnes étaient debout, mais l'éclairage était déjà beaucoup plus abondant que quand l'église était entière. On voit ici donc que la transcription de l'inscription, par exemple, dans le chapiteau du quatrième ton du plein chant que l'on voit ici à droite, est, je ne dirais même pas inexacte, mais parfaitement fantaisiste. Au temps de Mabillon, les grands chapiteaux devaient être pratiquement invisibles dans la pénombre, à quelques 9,5 mètres au-dessus du sol du sanctuaire. La plus grande partie de la description de Mabillon est en réalité consacrée à des remarques au sujet de certaines chartes originales, de manuscrits et des trois cartulaires. Il est inutile de donner un résumé détaillé de ce que Mabillon a choisi de commenter, puisque ce sont seulement les bâtiments qui nous concernent ici. Dans l'ensemble, disons seulement que ses choix sont sans surprise. Par exemple, il mentionne la grande charte de la fondation de Cluny, qui a été récemment et magnifiquement publiée par messieurs Atzma et Vezin. Et j'aimerais attirer votre attention sur un détail seulement pour confirmer que Mabillon et Don Germain ont bien travaillé d'après les notes et transcriptions de leurs devanciers, dont le Michel, sans doute en les vérifiant à l'occasion. Mabillon fait en effet mention d'une vie de Charlemagne, manuscrite, dont le titre indique « Edita ab Alcuino Magistro », attribution qui avait été acceptée par Don le Michel, et Mabillon le corrige. C'est un ouvrage authentique, dit-il, certes, mais d'Eginard. Comme toujours, il est d'une remarquable précision et note par exemple que la première main du cartulaire est la même main qui a écrit les annales de Cluny jusqu'en 1049, date à laquelle elle s'interrompt pour être ensuite remplacée par d'autres mains, ce qui permet donc de donner un terminus antequem au cartulaire lui-même. Et vous voyez ici donc une page des annales en question avec le début de la main à partir de 1051, donc de la main qui suit celle qui a écrit le cartulaire. Le plan et l'élévation gravés, publiés en 1713, donc 6 ans après la mort de Mabillon, doivent certainement avoir été préparés par Mabillon lui-même. En effet, le tome 5 des Annales, sans doute, nous sommes tous d'accord là-dessus, fut en grande partie achevé par Mabillon avant sa mort, et les rapports étroits entre le texte de son journal, l'Itinerarium Burgundicum, et ce volume posthume des Annales indiquent suffisamment qu'il en est bien l'auteur. De menus détails y sont ajoutés ou omis par rapport à l'itinéraire, et par exemple, il est indiqué qu'il subsiste une partie des murs de l'ancien bâtiment où le pape Gélase II était censé avoir logé à Cluny, détail qui est absent de l'itinéraire. La planche gravée est signée P.F. Giffard, c'est-à-dire Pierre-François Giffard, né en 1677, mort en 1723, libraire et graveur, fils de Pierre Giffard, né en 1631 ou 38 et mort en 1722. Tiens, j'ai la même date de mort, c'est peut-être une erreur. Pierre Giffard, donc graveur du roi. Le père, lui, avait déjà contribué au tome 2, publié en 1704, en gravant le tombeau d'Augier le Danois dans la cathédrale de Meaux, déjà mentionné, sans parler des planches paléographiques qu'il avait données pour le Dere Diplomatica en 1681. On trouve son fils, donc Pierre-François, au tome 3 en 1706, puis au tome 4 en 1707, avec une gravure du monastère de Saint-Amand et deux du mont Saint-Michel. Il est manifeste que les Giffards travaillèrent pour Mabillon d'après des dessins, aujourd'hui perdus, qui lui avaient été communiqués depuis les provinces. Même chose sans doute pour cette gravure de Cluny, mais cette fois-ci Mabillon a fourni à Giffard des numéros et une légende développée pour être imprimée au bas de la planche. Sans doute avait-il collationné ses notes prises sur place en 1682 avec un plan reçu d'un architecte, le plan et l'élévation de même. Cet architecte avait fourni un travail de qualité. Et par parenthèse, une version aquarellée de l'élévation a récemment été retrouvée par M. Jean-Denis Salvec et publiée par lui comme l'original, ce qui est possible. Malheureusement, l'aquarelle elle-même n'est ni signée ni datée, et quant à ce qu'elle représente, n'ajoute pas grand-chose à la gravure publiée par Mabillon. L'importance de ce plan de Mabillon, et c'est bien le plan plutôt que l'élévation qui mérite notre attention, réside dans son extrême précision du point de vue liturgique. C'est un document tout à fait novateur de ce point de vue. Il date sans doute d'après la visite de 1682, possiblement, mais sans certitude, d'après 1693, date où a véritablement commencé le travail sur les annales, et selon toute apparence, d'avant 1707-1708, car vers cette date, le cardinal de Bouillon, abbé de Cluny, érigea des grilles en fer forgé à l'entrée du cœur des moines, côté ouest, et devant la chapelle Sainte-Agathe. La chapelle Sainte-Agathe qui est la petite chapelle à l'extrémité, si j'arrive à faire apparaître le pointeur, non, bon, c'est ici. Voilà. Voilà, la petite chapelle qui est ici, à l'extrémité nord du petit transept. Et cette chapelle du bras nord du petit transept, donc choisie par le cardinal comme lieu d'un mausolée destiné à glorifier sa famille, avait subi des modifications dès le début des années 1690. Voici la célèbre gravure par Audran du mausolée de Bouillon en élévation, selon le projet jamais achevé mais publié par Baluze en 1708 dans son histoire généalogique de la maison d'Auvergne. Ce document est essentiellement un élément du dossier de la chute du cardinal, de sa disgrâce, dossier qu'a maintenant repris et réétudié M. Vincent Droguet pour le premier volume du corpus de la sculpture de Cluny, à paraître en 2008. Les grandes statues de Pierre II le Gros, que l'on voit ici, et qui comptent parmi les chefs-d'œuvre de la sculpture française, furent exécutées à Rome, transportées à Cluny, et sauvé par miracle lors de la destruction du monument en 1711 à la suite de l'ordre donné par le roi contre le cardinal. Or, rien de ces projets du cardinal n'est visible sur le plan de Mabillon, et celui-ci date donc vraisemblablement des années 80 ou au plus tard des années 90. L'auteur de cette communication sollicite ici votre indulgence si son texte se termine. Vous avez devant vous et entre vos mains, au moins certains d'entre vous, la célèbre gravure de Mabillon, dont le commentaire détaillé aurait dû suivre. Vous y remarquerez particulièrement la présence des vocables des autels, la localisation de certains tombeaux et la disposition liturgique du cœur des moines. Et je ne crains pas d'être contredit si j'affirme que Mabillon nous a laissé avec ce plan le document le plus important qui soit pour notre connaissance de la grande église de Cluny avant sa destruction. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'entendre la communication Jean Mabillon et Cluny, préparée par M. Nel Stratford, correspondant étranger de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, lue par Mark Smith, professeur à l'École des Chartes. C'était le 7 et le 8 décembre 2007 à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, au cours du colloque international intitulé « Jean Mabillon entre érudition et histoire culturelle ».